Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Donc, psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baaka, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre ainsi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ça, c'est notre première lecture. Et puis, une seconde lecture, qui est un peu finalement à l'inverse de ce que nous avons lu, mais c'est bien de pouvoir exposer notre pensée à travers, quelquefois des versets contradictoires pour nous montrer où se trouve le juste milieu, l'équilibre, parce que c'est ça, ce qui est important. Et je voudrais quand même dire que la foi, est avant tout, se caractérise par un équilibre. La foi, on l'a souvent présentée comme quelquefois des extravagances, un irréalisme, mais la foi, c'est quelque chose de très équilibré. Et on pourrait dire, à la limite, elle se manifeste aussi par la raison, et pas notre raison à nous, mais les raisons de Dieu, parce qu'il a certainement, en vue des choses meilleures que nous pouvons penser nous-mêmes. Alors, Juges, chapitre 5, verset 6. Au temps de Shamgar, c'était un juge en Israël, fils d'Anath. Au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, ils avaient choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. Alors c'est vrai que peut-être on ne saisit pas dès l'abord, ce qu'il peut y avoir d'opposition, mais pour pouvoir peser la pensée, il y a quand même des choses qui sont particulièrement marquées dans le premier et dans le deuxième texte, et qui les diffèrent. Le premier texte que nous avons pris comme référence, c'est véritablement une exhortation, une exaltation même, on peut peut-être le signaler de cette manière, pour manifester que ceux qui font preuve de foi, qui font foi en Dieu, sont heureux. Voilà. Sont heureux, alors que dans le deuxième texte, il nous est dit que ceux qui ont pris des chemins détournés, ceux qui finalement, ont montré quelques défaillances, et peut-être plus, sont tombés dans le malheur et dans la difficulté. Mais toujours est-il que je reviens à mon psaume 84, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Et c'est vrai que c'est une assurance qui, procure aux croyants la paix et la tranquillité dans leur conscience, dans leur esprit. Et il nous est dit, et c'est peut-être justement là où nous allons nous arrêter pour méditer, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que, en quelque sorte, puisqu'ils sont dans ce climat de foi, de confiance en Dieu, puisqu'ils sont dans ce repos, dans cette paix intérieure, dans cette paix de l'esprit, de leur pensée, alors à ce moment-là, la vie n'est pas compliquée. La vie va véritablement découler naturellement, bien qu'il y ait une œuvre surnaturelle, parce que la foi c'est quelque chose de surnaturel, les choses sans complication, sans se poser mille et une questions, sans chercher comme on dit midi à 14h, les choses vont se faire d'une manière tellement facile, tellement étonnante. C'est bien ce que nous dit justement cette parole, heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Et parce qu'ils placent leur confiance en Dieu, alors à ce moment-là leur projet, on en a parlé ce matin, leurs perspectives, leurs intentions, vont se réaliser, non peut-être sans savoir comment, quand et où, mais elles vont se réaliser parce qu'il y a là une voie, un chemin qui est tracé et les choses vont véritablement atteindre leur but, et pas notre but à nous, mais le but que Dieu s'est assigné. Alors c'est pour ça que même s'il y a des difficultés, ça nous a été encore rappelé, lorsqu'ils traversent la vallée de Baaka, la vallée des pleurs, la vallée des soucis, la vallée des perplexités, la vallée où nous nous posons mille et une questions en disant « mais où je suis ?» parce qu'ils ont la foi en Dieu, lorsqu'ils traversent cette vallée ténébreuse, ils la transforment par leur foi même en Dieu, comptant sur Dieu, il la transforme en un lieu plein de sources, alors que, au premier abord, eh bien, tout est désert, tout est amertume, ou tout est vide, inhabitable en quelque sorte, et à ce moment-là, Dieu envoie la pluie de sa bénédiction. Il la couvre de bénédiction. Et en marchant, puisque c'est une question de marche, c'est une question de faire agir notre foi, de mettre notre foi en action, parce que la foi est agissante, parce qu'elle n'est pas inerte, parce qu'elle n'est pas là, eh bien, en stationnement statique, mais parce que justement, eh bien, elle est évolutive cette foi, et à ce moment-là, il nous dit que leur force augmente pendant la marche. C'est-à-dire qu'on peut se fatiguer en marchant, hein. On peut s'épuiser, surtout quand la marche est ascensionnelle, hein, je pense, hein, aux courses dans les montagnes, etc., etc., c'est quelquefois très éprouvant, mais à ce moment-là, tout devient facile. Moi, je crois que s'il y a un mot à mettre sur ce petit message, enfin, sur ce petit passage plutôt, que nous avons lu, c'est facilité en Dieu. Oui, Dieu facilite notre vie. Alors peut-être que nous pouvons avoir des idées un petit peu divergentes, parce que nous avons des expériences qui n'ont peut-être pas été très faciles, mais je crois que quand même, me semble-t-il, lorsque nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, lorsque nous nous livrons, eh bien, nos fardeaux et nos difficultés, alors on s'aperçoit que c'est Dieu qui prend le relais. Oui. Il nous porte, vous connaissez, les pas sur le sable, vous connaissez l'histoire, hein. Eh bien, c'est ça en quelque sorte. Et on peut dire qu'on est heureux de faire ce genre d'expérience, parce que nous ne sommes que des humains, nous sommes aussi soumis à toutes sortes de pressions, toutes sortes de tentations, on peut le dire, mais on sent, même si nous marchons devant un Dieu qui reste lui invisible, qui reste caché, en tous les cas, nous savons qu'il est auprès de nous. Et il nous est dit que notre force, nos forces, eh bien, se renouvellent pendant, eh bien, tout simplement la marche. Ce que je voudrais ajouter, et ce que je voudrais bien marquer, parce que ça va être un petit peu le fil conducteur, le fil rouge de notre méditation, c'est le principe de la foi. Ça, c'est important. Le principe de la foi, marcher dans la foi, marcher par la foi, marcher dans cette intégrité, où nous croyons que ce que Dieu nous dit, c'est la vérité, et nous voulons rester finalement, eh bien, dans ce qu'il nous a annoncé, dans ce qu'il nous a montré, et c'est rester aussi dans la vérité. Parce que peut-être d'autres chemins nous conduisent vers des erreurs, nous conduisent vers des voies sans issue, vers toutes sortes de choses qui peuvent être, à premier abord, eh bien, peut-être moins difficiles, peut-être plus engageants, quelque part, eh bien, des chemins qui nous semblent plus agréables. Mais on se souvient de ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, resserré, étroit est le chemin, et c'est le chemin qui nous est proposé, mais par contre large et spacieux, eh bien l'autre, véritable autoroute, mais où cela nous mène? C'est ça la différence. Alors on va mettre un petit peu en confrontation, eh bien, toutes ces choses. Et il est question, dans la deuxième lecture, et nous y reviendrons tout à l'heure, il est question de route abandonnée, des chemins qui sont délaissés, de sentiers, de voies, etc. Et tout cela nous parle en quelque sorte, et je voudrais faire un préambule, pour nous rappeler un petit peu que le chemin de la foi, c'est aussi ce que nous pouvons connaître dans les choses quotidiennes de notre vie. Hein, aller prendre un chemin, prendre une route, eh bien, c'est d'aller d'un point à un autre. Et nous avons pour cela, eh bien, tous les moyens aujourd'hui, hein, des itinéraires, nous avons des cartes, nous avons des plans, nous avons maintenant ô combien formidable GPS, sur lequel je comprends jamais rien, mais toujours est-il que je me débrouille avec les panneaux d'indication. Je sais encore lire, hein, hein. Mais c'est vrai que on a tous les moyens aujourd'hui, hein. Et vous savez que ces GPS, c'est satellitaire, hein. Je comprends rien. Enfin, c'est pas grave. Je suis assez primaire, mais enfin bon, j'arrive à me débrouiller, hein. Je suis venu vous voir cet après-midi, je me suis pas trompé, hein. Avenue de la République, rue d'Ypres, j'ai garé ma voiture à côté, j'espère que je vais la retrouver. Mais toujours est-il que c'est d'aller d'un point à un autre, hein, c'est ça. Il y a dans notre monde aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des choses concrètes de notre société, ce qu'on appelle la logistique des transports. Vous savez, hein, on fait des études pour cela, c'est sanctionné par des diplômes, etc., où on apprend, parce que dans un monde où il y a beaucoup de commerce, où il y a beaucoup de trafic, hein, et c'est pas seulement local, mais ça peut être international, ça va à des proportions. Ouais. Alors dans les logistiques humaines, où on établit finalement la rationalité de faire véhiculer des gens, ou alors véhiculer des marchandises, hein, c'est ce qui se passe le plus souvent, Alors, il y a différents moyens. Hein. Alors, il y a l'automobile, naturellement. Les routes, les autoroutes, ça, on le connaît, naturellement. Il y a le ferroviaire. Hein. Et ça, ce sont les trains, naturellement. Et les trains, ils sont sur des rails. Hein. Pas question de donner un coup de volant, hein, parce que là, vous allez à côté. Hein. Mais, donc, c'est bien conditionné. Et puis, bon, certains trains, je pense au métro, ce sont des rames, et puis même hein, ce que nous trouvons dans les gares SNCF, etc. Il y a les avions aussi. Hein. Et les avions, ça procède aussi d'une réflexion de circulation hein, avec des créneaux d'altitude. Hein, heureusement d'ailleurs, hein, parce que dites donc, la marche, elle est assez haute. Hein. Quand vous êtes à 10 000 mètres, c'est quand même assez conséquent. Hein. Et il y a naturellement des mesures d'altitude, toutes sortes de choses, hein, parce que c'est dans l'espace, là, vous avez de la place. Hein. C'est vrai que quand on regarde un avion, il est à 10 000 mètres au-dessus de notre tête, il y paraît tout petit. Hein. Et on se dit, il y a 150 personnes, 200 personnes dedans, ils ont les pieds en l'air, hein, pourvu qu'ils ne passent pas à travers le plancher. Mais je vous dis ça parce que quand je suis en bas, j'y pense. Mais quand je suis en haut, j'y pense aussi. Parce que je me dis quand même, si... Mais bon, enfin, c'était prévu pour... Vous savez qu'à Saint-Nazaire, on a quand même... on fabrique hein, des avions, hein. Toute la gamme là d'Airbus, hein. Mais bon, on voit que c'est sérieux, j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 ou 3 ans, c'est colossal. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous vous rendez compte, hein. Et on ne fait pas un avion comme ça en 2 jours. Hein. Si vous le commandez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas demain, ça c'est clair. Hein. Alors voilà donc, et puis il y a le trafic maritime également. Alors on est bien placé ici à Saint-Nazaire, à travers des navires, des paquebots, enfin de toutes sortes et de toutes conditions. Alors il y a, là on l'a vu, hein, je pense que dans tous les ports, il y a le chenal. Hein. Alors on creuse parce que la Loire amène des alluvions, du sable, et que c'est fait quotidiennement, parce qu'autrement les bateaux ils ne passeraient pas. Hein. Il y a des balises aussi, hein, en pleine mer, ou à la sortie de l'estuaire, ça clignote, enfin bon, il y a toute une... J'ai toujours été assez surpris de ce que les hommes sont capables de faire hein, pour aller d'un point à un autre. C'est vrai, hein, ça peut nous arriver, quelquefois, quand on passe sur le pont d'une gare importante, quand on voit le maillage... des rails, etc., etc., on se dit, mais comment ça peut fonctionner, hein, quand vous avez des centaines de trains qui partent tous les jours, hein, enfin, c'est ce qui se passe dans la période des vacances, on se dit, mais comment c'est géré, tout ça? Bien sûr, il y a les ordinateurs, ben, il y a toutes sortes de choses, même les bateaux, hein, quand vous voyez ces tonnages exceptionnels et qui vont jusqu'à l'autre bout du monde. Alors, tout ça, c'est, on peut parler de la logistique, finalement, et on a parlé de chemin, et j'y reviens, parce que, tout ça n'existait pas hein, du temps du psalmiste, mais toujours est-il que ce sont des réalités. Hein. Alors dans les trains, il y a les aiguillages. Ça s'en va. Hein, quand vous arrivez à Montparnasse, pour nous les Bretons, enfin les Nigériens, quand on arrive, on se dit, mais quand on regarde de chaque côté, on se dit, mais c'est pire que l'autoroute, hein, de largeur et tout ça. Et ça se rapproche, ça s'éloigne, etc. Les trains s'entrecroisent. C'est quelque chose quand même. Hein, c'est... Naturellement, derrière tout ça, il y a une tour de contrôle. Hein. Ouais. Parce que finalement, c'est pas celui qui est dans le train ou dans l'avion, et c'est pas lui qui fait les choses. Hein. Pilote automatique hein, dans l'aérien. Et on se dit pourvu qu'il se trompe pas. Hein. C'est surtout ça. Hein. Parce qu'à un moment donné, l'avion il atterrit par la conduction qui est donnée sur le sol. Hein. Donc les postes, tout a été établi pour cela. Hein. Il y a des codes de circulation. Hein. Autant même pour les piétons, hein, pour nous-mêmes. Hein. Codes de circulation qui ont lieu d'être, hein, et la raison de leur existence, c'est tout simplement, eh bien là, la garantie de sécurité. Eh, vous avez passé votre permis de conduire pour la plupart, hein, et on en a des choses à apprendre, hein, parce qu'il y a des choses à respecter, ceci et cela. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de véhicules qui sont là autour de nous dans des périodes d'affluence, on se dit, mais heureusement qu'il y a un code de route. Hein. Tout le monde ne le respecte pas. Et malheur, hein, c'est terrible. Hein. Mais quand on se dit que toutes ces millions de voitures qui circulent tous les jours dans des pays comme les nôtres, hein, et que, bon, il y a des accidents. Il y a des accidents mortels. Mais ça pourrait être pire. Hein. Bon, j'ai fait un petit peu le Maroc. Hein. Je peux vous dire qu'ils doivent lire le code de la route à l'envers. Hein, parce que ça passe dans tous les sens. Hein. C'est terrible, hein. Ah oui, non, mais c'est quelque chose, hein, et encore, heureusement qu'il y a encore un respect dans nos pays, hein, parce que c'est effrayant, hein, des gens qui roulent dans tous les sens et qui, voilà. C'est vrai que il y a le code. Il y a des codes de circulation, ils sont nécessaires, et, bien sûr, à la condition qu'il y ait obéissance. Mais cette obéissance, elle est conditionnée aussi à ce que celui qui est au volant d'une voiture, hein, respecte, c'est-à-dire ait foi dans ce qui est dit, parce que c'est un livre, le Code de la route, hein. Alors, on le trouve, il décline peut-être sous différentes formes, mais je vais obéir, hein. Je vais obtempérer parce que je pense que ce qui est écrit, c'est bien. Ce qui est écrit, c'est nécessaire. C'est pour ma protection à moi, et pas accessoirement, mais ma protection avant tout pour les autres. Et c'est réciproque dans tous les sens. Et nous voyons que ça a été fait par le législateur pour que, justement, eh bien, il y ait le respect des règles. Voyez où je veux en venir, hein. Parce que on comprend qu'on s'approche naturellement, eh bien, du texte que nous avons lu, des textes que nous avons lus. L'utilité, c'est la prévention des accidents. Prévention des accidents, parce que bon, il y a des choses qui sont impératives. Et puis aussi, le code de la route et les indications qui nous sont données dans, je reviens à des choses beaucoup plus communes à nous, les conducteurs d'automobiles, c'est que ça nous évite de nous égarer aussi, hein. Hein, quand on a, par-delà le code de la route, une carte, j'en ai amené ici, là. C'est la Bretagne. Hein, si vous en avez besoin, je peux vous la prêter. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien, hein. C'est tout nouveau. Hein. Voilà, celle-ci doit avoir au moins 10 ans. Je ne sais pas s'il y avait encore. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais moi, je me contente mieux que du GPS, parce que le temps que je dois mettre en route, je passe une demi-heure avant de partir. Le temps que je comprenne, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me parle. Et puis il y a toujours une conversation. Remarquez, ça change de mon épouse. Hein, mais toujours est-il que. Bon, mais elle connaît. Vous tracassez pas, vous affolez pas cet après-midi. Mais toujours est-il que ça, ce sont des choses qui sont quand même importantes, prévention des accidents et des égarements aussi, parce qu'on peut se tromper, voilà. Et puis aussi des collisions, hein, ça peut arriver naturellement. Alors il y a des panneaux sur les routes, voilà. Hein, on en a quand même pas mal. Quelquefois ils sont pas toujours bien mis, mais bon, ils sont là quand même. Hein. Et il y a dans les panneaux, vous allez repasser votre permis de conduire cet après-midi, des panneaux de couleurs et de formes différentes, vous connaissez, hein. Il y a les triangles, il y a les ronds, et puis il y a des couleurs, hein. Il y a des bleus pour les indications de direction, il y a des rouges, alors là, rouge, attention, c'est interdiction, enfin toutes sortes de choses, formes et couleurs, de danger, de direction, d'interdiction absolue, hein, d'obligation, sens giratoire par exemple, d'information de service, puis de confort aussi, des panneaux qui sont là pour nous guider, pour pouvoir finalement aller de A jusqu'à B, c'est-à-dire de pouvoir arriver en bonne condition, et c'est le but, hein. Et figurez-vous que la Bible, c'est un petit peu ça, quelque part. Ouais. C'est un petit peu ça. Ça commence par une loi très rigide, hein, dans l'Ancien Testament. Et puis, pensant que la maturité nous est parvenue, eh bien, Jésus a apporté encore un code supplémentaire, mais beaucoup plus souple, beaucoup plus accessible et beaucoup plus compréhensible. C'est-à-dire, c'est la grâce. La loi, la grâce et la grâce par la foi, et la foi implique l'obéissance, parce que nous croyons que ce qui est écrit, eh bien, c'est la vérité, et c'est pour notre vie. C'est pas pour notre mort. C'est pour notre meilleure vie, en quelque sorte. Alors, il y a toutes sortes de choses. Il faut pas s'endormir non plus, hein. Quand on est au volant d'une voiture, ça peut arriver. C'est cause d'accident. Il y a des choses qu'il faut pas consommer. Et il faut faire aussi attention à la vitesse, parce que de vouloir aller trop vite, quelquefois, on finit le dernier, hein, ou on finit pas du tout. Malheureusement, hein. Ça, c'est la société dans laquelle on est, hein. Alors, il y a des routes périlleuses aussi. Hein, quand vous allez, par exemple, ici, c'est pas très dangereux, hein, sur la côte, c'est plat, il n'y a pas de problème. Et quand vous allez dans les montagnes, il y a des routes où nous sommes avertis qu'il y a des dangers. Hein. Il y a des pistes de freinage, vous savez, pour les camions, à un moment donné, hein, c'est marqué longtemps à l'avance, hein, parce que quelquefois, il peut y avoir des défections au niveau de l'arrêt des freins. Il y a des indications aussi saisonnières. Il y a dans les montagnes, eh bien, des grands panneaux à un moment donné, col fermé. Alors vous n'avez pas intérêt d'y aller, hein, parce que vous allez devoir faire demi-tour à un moment donné, parce que vous avez des montagnes de neige devant vous. C'est ce qui m'est arrivé une année. Et puis il y a des voies sans issue, voilà, une voie sans issue. Il y a les raccourcis pour les petits malins. Ah, combien de fois on s'est fait avoir, hein. Quelquefois on dit tiens, on a regardé sur la carte, et puis on l'a interprété un petit peu à la légère, et puis on s'est dit tiens, ben on va couper comme ça. Puis en fait, de couper, on a fait 20 km de plus. En fait, de raccourci, je peux vous dire que ça... Bon, après, vous êtes guéri. Bon, c'est bien comme ça. Les déviations pour les travaux, etc. J'en arrive et je suis sérieux, parce que c'est vous qui me faites rire quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, les chemins trompeurs. Et j'en arrive là. Vous savez qu'il y a dans la Bible cette parole qui nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, telle route paraît droite à un homme, tel chemin, tel sentier paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Hein. Vous connaissez ce texte hein, dans l'Ancien Testament. Et je pense que c'est tout à fait pertinent, parce que ça pourrait s'appliquer, c'est vrai, on pourrait le prendre, ce texte, tout simplement, dans les choses indifférentes de la vie dont nous venons de parler à travers la logistique des transports, etc. Mais on pourrait l'appliquer aussi à la vie spirituelle. Il y a des choses qui, quelque part, eh bien, peuvent être au premier abord agréables, vous savez, comme notre ami Lot, hein, qui pensait que lui, la voie de la prospérité, du succès, de la tranquillité et de l'accroissement de sa richesse, ça allait vers le bas, vous savez, il était sur la montagne et puis il est descendu vers Sodome et Gomorre. Mais c'est vrai que c'était tout droit, ça descendait bien. Mais je peux vous dire que c'était quelque chose pour lui, hein. Alors que Dieu, après, l'a fait remonter sur la montagne, mais tout seul, ayant tout perdu. On connaît l'histoire, hein. C'est tout simplement Genèse au chapitre 19, vous pourrez retrouver cette histoire fameuse, mais qui a des conséquences. Et on peut parler de chemin trompeur. On peut s'égarer, on peut finalement, en pensant que... Non, non, ça nous a été encore dit ce matin, pensons comme Dieu pense. Comme un père digne de ce nom, ou des parents dignes de ce nom, vont faire en sorte que les enfants soient conduits dans telle ou telle voie, je parle au pluriel, pour qu'ils deviennent des hommes, et qu'ils puissent s'épanouir, et qu'ils puissent finalement eh bien réussir leur vie. Et ça, c'est important. Et je crois que Dieu nous tient un peu le même langage, hein, quelque part. Qu'à travers les enseignements qui nous sont donnés, à travers les exhortations de la Bible, Dieu, parce qu'il est notre Père céleste, sait très bien ce que nous avons besoin et ce qui sera le mieux pour nous. Et quelquefois, nous rentrons en contestation avec Dieu. Nous rentrons en révolte. Ça peut arriver. Moi, je veux prendre ce chemin parce que je pense que c'est le mieux. Non. Et je pense que, là encore, flexibilité et souplesse, foi, eh bien, est quelque chose d'important. La foi, je vous ai dit tout à l'heure, se prolonge dans l'obéissance. Nous en avons un exemple extraordinaire, quand quelqu'un se convertit, quelqu'un se repent de ses péchés, il est convaincu, finalement, que la parole de Dieu, que Dieu s'est adressé à lui, que Dieu lui demande, eh bien, finalement, de se repentir, de... Et qu'est-ce qu'il est, la première chose qui va découler, c'est une obéissance en confessant Jésus, en descendant les eaux du baptême. La foi, et ensuite l'obéissance. On en parle souvent lorsque nous avons des services de... Ça, c'est une concrétisation, parce que lorsque l'on se fait baptiser, adulte, en connaissance de cause, on sait que maintenant nous avons pris une voie qui sera la meilleure. Et avec cette disposition à l'intérieur de nous-mêmes que nous voulons marcher. Nous avons été convaincus que le Seigneur est notre Père, qu'il nous donnera le meilleur. Et oui, on trouve à ce moment-là des chemins tout tracés, parce que nous avons mis notre confiance, finalement, en Dieu. Alors, on pourrait peut-être, justement, eh bien, parler de toutes ces questions brièvement. Telle voie paraît droite. Ça semble. C'est tout simplement une illusion. Mais quand on arrive à l'aboutissement et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout au bout, c'est quelque chose de terrible. Moi, ça me fait penser à tous ces gens de bonne foi. Je dirais de bonne foi, qui sont quelque part conditionnés ou formatés dans une religion, et chrétienne peut-être, et qui quelque part sont d'une grande sincérité, qui feraient n'importe quoi pour satisfaire eh bien les exigences religieuses dans lesquelles ils sont incorporés en quelque sorte, excusez-moi le mot, mais je pense qu'il est tout à fait aussi eh bien approprié. Et c'est vrai que on s'aperçoit que derrière tout ça, il peut y avoir aussi tellement de fausses voies, et quand on arrive au bout, on se dit, mais c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Vous savez, je pense que Dieu nous a fait le plus grand cadeau en nous donnant le code de la vie. Pas le code de la route, mais le code de la vie. Et ce code de la vie, eh bien, c'est vrai qu'il y a quelques pages à lire, hein. Mais, en tous les cas, il est là pour nous, tous les jours, jusqu'à la fin de notre passage sur la terre, pour nous montrer le chemin que nous avons à suivre. Et oui, je crois que c'est quelque chose de tellement important. Et lorsque nous prenons Jésus, qui nous dit ces paroles ? Je suis le chemin. Je suis la vérité. En marchant de ce chemin, nous trouvons et nous découvrons, nous développons la vérité, la connaissance de la vérité. Et cela aboutit à la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus précisera, parce que ça c'est l'aboutissement, c'est la destination finale. Eh bien, nul ne vient au Père que finalement, eh bien, à travers lui. Et quand on voit ce dédale, cette complexité, ces bretelles de raccordement, excusez-moi, je reviens à ce qui m'obsède là, en ce moment, les routes, mais et ce maillage, on se dit, mais c'est impossible. Parce que pour être sauvé, pour certains, eh bien, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut s'abstenir de ceci et cela, etc. On se dit, mais c'est comme si on regardait quelque part, là, sur un pont d'une gare importante et que l'on voit tous ces... Alors que Jésus nous dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas 36, il y en a un. Et il va au but. C'est si simple, hein. Et c'est tellement compliqué pour les hommes de croire ça. C'est tellement compliqué. Parce que c'est une question de confiance. Tout simplement. Moi, je crois que la Bible dit vrai. Hein, je crois que la Bible est vraie. Hein, c'est ce que nous chantons quelquefois. Et quand on voit tous ces gens qui se rendent malheureux sur le plan de la conscience, sur le plan même de leur conscience religieuse, qui se font tout un mal pas possible. Hein, c'est comme quelqu'un qui serait sur la route, il est perdu, il ne sait plus où il en est rendu, il va dans un sens, il revient en arrière, il repart, etc., etc. Ça, c'est tous les dilemmes de la conscience humaine. Hein. C'est un fatras pas possible et on comprend que les gens sont malheureux. Hein. Ouais. On comprend que les gens sont malheureux alors qu'il y a quelque chose de tellement simple. On l'a cité, hein. Hein, Jean chapitre 14, verset 6, « Chemin, vérité, vie » et on vient au Père que par ça, tout simplement. C'est un guidage, en quelque sorte. Un guidage qui est fiable et qui est sûr, naturellement. Et pour cela, eh bien, on en revient toujours à la même chose, la parole de Dieu. On l'a dit. On ne le lira pas en une soirée, ça c'est clair. Mais lorsque nous plongeons nos regards dans cette parole, nous y trouvons toujours la réponse à nos besoins du moment. Et il y a des expériences extraordinaires, que ce soit dans nos périodes de joie ou de bonheur ou d'insouciance ou de toutes sortes de choses. Il y a des réponses pour nous exhorter, enfin nous exhorter ou nous exalter à ce moment-là. Et puis lorsque nous traversons des moments de difficulté, de perplexité, il y a aussi des réponses extraordinaires qui nous font tellement de bien. C'est un code, c'est un guidage, quelque chose qui est sûr, qui est fiable. On pourrait dire que la Bible, c'est la carte routière de la vie, hein. Je vous l'ai dit il y a un instant, mais c'est ça. Et puis, par-delà cette connaissance, par-delà cette foi dans l'absolue vérité de cette parole, eh bien, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Excusez-moi, je voudrais pas être outrancier, mais moi je dis que on est conduit d'en bas, mais on est conduit aussi d'en haut, hein. Pas par satellite, hein. Non, mais par le Saint-Esprit. Et je pense que Dieu est tout à fait capable, et nous l'avons vu combien de fois dans notre vie, où nous avons ce que l'on peut appeler les indications du Saint-Esprit. On a bien sur les routes des panneaux d'indications, on a bien des directions, etc. Mais à un moment donné, alors que nous sommes dans une situation peut-être de doute ou autre chose, le Saint-Esprit vient nous confirmer ce que la parole nous dit. Elle n'ira jamais, le Saint-Esprit n'ira jamais contre la parole. Ça, c'est sûr. Et on s'aperçoit que quelquefois, dans les moments où nous sommes à prendre des décisions, des choix à faire, hein, des options à prendre dans notre vie, et il y en a qui sont indifférentes, qui sont pas graves, mais il y en a d'autres qui sont tellement importantes, qui vont engager notre vie entière, hein, que ce soit pour un travail, que ce soit pour d'autres situations, peut-être sur le plan affectif. Là, il faut pas se tromper, hein, parce que un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. On est toujours libre de dire l'un ou l'autre, mais pas de dire l'un et puis de revenir sur l'autre. C'est pas possible. Hein. Et avec, naturellement, il y aura toujours de la peine et de la souffrance, hein, quand on revient en arrière. Mais, en tous les cas, moi, je pense que Dieu nous a envoyé son esprit, nous a donné sa parole, le guide, j'ai une confiance dans sa parole, c'est pas elle qui va me tromper, je veux pas me fourvoyer. Ensuite, parce que je connais sa parole, et elle me revient quelquefois spontanément, parce que je n'ai pas tout lu, hein, ou si j'ai tout lu, je n'ai pas tout retenu, mais à un moment donné, un verset nous revient. Quelque chose qui nous parle, ça peut être à travers finalement un message, hein, comme cet après-midi ou ce matin, où là nous trouvons des chemins tout tracés dans nos cœurs. C'est brouillé à un moment donné, c'est confus, c'est opaque, et à un moment donné, ça devient clair. Et ça, ce sont des belles expériences de la vie. Vous ne trouvez pas ? Ah ouais, quelquefois on a vécu des choses où dans des temps d'attente, dans des temps où nous étions dans le doute, on cherche, on prie, on demande, on est vraiment dans l'expectative, hein, et on n'est pas toujours très heureux. Et à un moment donné, la réponse, elle arrive par une indication à l'intérieur de nous-mêmes où Dieu nous dit c'est ça. Ça peut être un don spirituel aussi, hein. Ou ça peut être tout simplement en dehors de quelque chose qui, eh bien, là, a une apparence beaucoup plus marquée surnaturelle. Ça peut être tout simplement une parole à l'intérieur de nous-mêmes qui nous revient. Oui, qui nous rassure, qui nous tranquillise. Combien de fois, dans certaines nuits, nous avons reçu ces paroles, où Dieu nous a parlé. Et alors que nous étions dans l'agitation et peut-être dans l'insomnie, là nous avons pu dormir, nous avons pu nous endormir rassurés parce qu'il y avait une parole. Ça peut être à travers un petit chant qui monte de notre cœur. Quelquefois on s'est trouvé surpris, alors que nous étions dans le brouillis-brouillat, comme on dit, et malheureux. Et à un moment donné, il y a la paix de Dieu qui vient avec un petit chant que nous connaissons bien, que nous n'avons peut-être pas chanté depuis je ne sais pas combien de temps. C'est un bonheur, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui apaise, c'est une joie extraordinaire et merveilleuse. Ça, ce sont les voix de Dieu. Ce sont les voix de Dieu. Lorsque nous considérons, eh bien, l'autre face que nous avons lue, et rapidement, je ne vais pas trop tarder cet après-midi, mais il nous est dit que dans un certain temps, où il y avait tellement de troubles en Israël, c'était du temps des juges. Il nous a donné les noms, mais peu importe le nom des juges. Il nous a dit qu'il y avait des gens qui voyageaient, et ils voyageaient sur des routes qui étaient abandonnées. Ah oui, vous savez, la misère du monde aujourd'hui, la misère du monde hors la foi en Jésus-Christ. On peut dire qu'ils ont abandonné certaines routes. Et notre société, notre monde d'aujourd'hui est en déliquescence. Parce que on se rit maintenant des principes. On se rit de certaines morales, pas pour la morale elle-même, mais pour ce qu'elle a de valeur. Est-ce qu'elle a de, pour maintenir finalement la société, on fait fi. Et on se dit, mais peu importe, aujourd'hui on fait comme on veut, comme on pense, comme on veut, on fait ce que nous désirons. Il y a un mot qui arrive de plus en plus, hein, et on le voit, on l'entend par les médias, c'est le mot plaisir. Ça, il n'y a que ça, hein. Les gens vivent pour le plaisir aujourd'hui. Et il y a l'apôtre qui en écho nous dit, mais ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est la société dans laquelle on est. Tout fonctionne avec ce plaisir. Alors il y a naturellement, eh bien, ces routes qui sont abandonnées. Et ceux qui voyagent, pour ceux qui veulent voyager, ceux qui sont en recherche, hein, parce que c'est ça, hein, on peut le comprendre de cette manière, ceux qui sont en recherche, ils prennent des chemins détournés, voilà, des voies sans issue, ils sont obligés de revenir, donc ils perdent du temps, ils s'épuisent, etc. Et ils désespèrent. Il y a un monde qui désespère autour de nous, hein. Moi, je pense que la jeunesse, elle est en pleine désespérance. Pas les gens de notre âge, parce que nous avons déjà un vécu. Et nous savons, hein, nous avons fait notre vie. Enfin bon, j'espère que c'est pas pour demain matin, mais enfin, c'est pour vous rassurer que je vous dis ça. Mais toujours est-il qu'il y a, c'est vrai, une désespérance profonde. Et ça se manifeste par des choses qui sont atroces. Regardez tous ces jeunes qui prennent des kalachnikovs et qui tuent les autres, parce que derrière, socialement parlant, on leur dit, mais voilà, ils ont pas de travail, etc., etc. C'est pas pour ça qu'il faut tuer les gens, hein, parce que quand on n'a pas de travail. Mais voilà, ils prennent des chemins détournés. Notre société est en train de prendre des chemins détournés. Mais c'est pas pour son bonheur, hein, on va le voir. Alors, à ce moment-là, les chefs étaient sans force. Les chefs en Israël, sans force. L'autorité tombe. Il n'y a plus rien du tout. Plus rien ne fait autorité. Même le code de la route ne fait plus autorité. Hein. Ou alors, si on enfreint le code de la route, eh bien, il y a les amendes, il y a toutes sortes de choses, il y a tout un train qui est mis en, hein, et quelquefois, ça refroidit quand même, hein. Mais on n'obéit pas par amour, on obéit par crainte à ce moment-là. Le képi, vous savez, quand je parle de képi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous savez ceux qui sont dans les buissons sur le bord des routes, là, quelquefois, bien cachés, voilà. Enfin bon, vous regarderez bien, mais regardez la route quand même. Hein, parce que les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Et nous sommes dans une société qui n'a plus de force. Paf ! On sent que tout est amorti et on comprend qu'il n'y a plus de direction. Alors, il y a une jeune femme qui s'est levée, elle s'appelle Déborah. Elle est bien Déborah, hein. Ah ouais, dites donc, elle a du courage, hein. Alors, elle se lève, et elle s'est levée pour secouer un peu tous ces messieurs qui dormaient. Parce que c'est ça l'histoire, hein. Bon, je veux pas trop m'étendre parce que c'est pas le sujet. Et il nous est dit qu'ils avaient choisi de nouveaux dieux. Et nous sommes dans un monde où on remplace le bien par des choses qui sont mal, mais en ayant tout à fait l'apparence du bien. Mais que l'apparence. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on ouvre le paquet cadeau, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, c'est mauvais, c'est la mort, c'est la dispute, c'est les querelles, c'est la haine. Regardez, autour de nous, c'est ça, hein. Une société qui est en plein conflit, et on nous a promis la paix. Et on a fait des choses depuis une centaine d'années pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et pourtant, quand on ouvre les choses, et quand on voit, quand on ouvre les yeux, eh bien, on peut dire qu'ils ont choisi de nouveaux dieux. C'est plus Dieu qui est Dieu, hein. Il est toujours Dieu, mais je veux dire que on a servi un autre maître, l'argent, l'égoïsme, la convoitise, et puis toutes ces choses, la haine, le racisme, toutes sortes de choses. Je laisse aux politiques de dire la suite, hein. Mais c'est vrai que on peut le dire, mais s'il n'y a pas de solution, la seule solution, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». C'est tout. Il n'y a pas 36 façons de faire, hein, les choses, hein. Alors il nous est dit d'une manière très triste, d'une manière catastrophique. Et alors la guerre était aux portes. La guerre était aux portes. On espère la paix. Et on s'aperçoit que tout le ressenti que l'on a autour de nous ici et ailleurs, c'est tout emprunt, finalement, eh bien de quelque chose qui prélude, des conflits et des choses qui sont terribles, qui sont mauvaises. C'est notre société aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas suivi le chemin. Parce qu'on a pris des chemins détournés. Parce que finalement, eh bien, on a abandonné la véritable voie. La voie de Jésus, la voie et la voie de Jésus écrite différemment, hein, V-O-X et V-O-I-E. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il nous est parlé la voie de Jésus pour nous montrer l'évangile. C'est le mot, hein, la voie de Jésus. Heureux ceux qui placent en toi, Seigneur, ceux qui espèrent envers et contre tout, contre un monde qui tourne le dos à Dieu, mais un monde qui se moque de Dieu, qui se moque même de notre foi. Alors, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur, c'est pas dans leur tête. C'est pas dans des bouquins, c'est pas dans ceci, une philosophie, théologie, religion, tout ce que vous voudrez. Ils trouvent dans leur cœur. C'est quelque chose d'éminemment personnel. Oui, je sais parce que le Seigneur m'a montré. Je ne sais pas parce que c'est la déduction de mes analyses ou autre chose, mais je sais parce que le Seigneur m'a montré à la lumière de sa parole, peut-être par une indication puissante de son esprit à un moment ou à un autre, hein, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Merci Seigneur de ce que tu rends notre vie agréable, de ce que tu rends notre vie plus facile. Et vous savez que nous sommes les hommes les plus heureux de la terre, non? C'est un livre ça, hein, qui a été écrit, hein, pour montrer que quand on a l'évangile, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes. On peut être noyé dans un océan de difficultés, de problèmes, mais notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle dépend de notre communion avec le Seigneur. C'est lui qui va nous guider, et c'est lui qui nous donnera d'avoir et de garder la tête haute, et de rester dans la paix, de rester dans la tranquillité, et cette joie qu'il donne. Ah oui, nous traversons des vallées, vallées de pleurs, vallées de Baca, c'est vrai, mais parce que nous avons cette foi en Dieu, nous sommes capables de voir que Dieu transforme le bien, non, transforme le mal, heureusement que vous êtes là, hein, transforme le mal en bien. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, naturellement. Et à ce moment-là, le mal qui était fait pour nous détruire, eh bien, il se change en bénédiction. Il se change en grâce. Il se change en quelque chose d'heureux. Et nous allons marcher, et nous marcherons jusqu'au bout. Mais nous avons cette assurance que notre force va augmenter pendant la marche. Ne nous arrêtons pas. Nous suivons Jésus. Il y a la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui va nous guider, les chemins tout tracés dans nos cœurs. Et puis il y a Jésus, notre modèle. Jésus qui est le modèle parfait. Il a marché sans broncher. Il a marché jusqu'au bout. Et le bout de la distance de Jésus, elle était terrible. Hein, c'était terrible. Mais nous nous apercevons qu'il nous a donné, eh bien, à la perfection, la manière dont nous devions emprunter ce chemin de Dieu, ce sentier, cette route du Seigneur. Alors, gardons ce code, sa parole. Nourrissons-nous de cette parole. Investissons-nous. Demandons à Dieu plutôt. Ça me vient à l'esprit. Mais demandons à Dieu qu'il nous donne de l'appétit pour lire sa parole. Et non pas, peut-être comme ça a souvent été dit, force-toi à lire la parole. Ben vous savez, au bout d'un certain temps, quand on se force à lire la parole, si véritablement il n'y a pas une motivation spirituelle au-dessus, à un moment donné, il y en a beaucoup qui abandonnent et qui laissent. Mais Seigneur, comme cela est écrit dans le psaume 119, le plus court, vous verrez qu'à ce moment-là, eh bien, c'est Dieu qui va susciter en vous cet appétit. C'est comme quand on se met à table, il y a des gens qui sont asthéniques, qui sont en faiblesse et qui n'ont pas envie de manger. Eh bien, ça peut nous arriver, nous aussi. Mais de dire, Seigneur, donne-moi vraiment de me délecter de ta parole. Et vous savez que ça devient un plaisir et un véritable bonheur. Oui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous rappelles qu'en effet, Seigneur, il y a une voie royale. Et cette voie royale, elle nous conduit vers le haut. Nous voulons croire, Père éternel, que dans le monde des hommes, il y a des voies, il y a des routes, il y a des autoroutes, il y a des circulations, Seigneur, dans les airs, sur les océans, d'une manière ou d'une autre, mais c'est toujours à la verticale. Mais une chose qui est certaine, c'est que, Seigneur, tu nous as appelés à regarder vers le ciel et de regarder qu'il y a un chemin, qu'il y a une voie, qu'il y a une vérité là où nous trouvons la vie. Eh bien, c'est vraiment lorsque nous regardons les yeux fixés sur Jésus et que c'est lui, Seigneur, qui nous montre ce qui est bon pour nous. Moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs, je te prie pour mes amis cet après-midi, pour ceux qui entendent, ceux qui entendront plus tard, peu importe ceux qui liront ta parole, que véritablement ils comprennent que Jésus, c'est véritablement, Seigneur, celui qui nous éclaire. C'est comme sur la mer, pour les navires, il y a des balises qui éclairent à des dizaines et des dizaines de kilomètres pour les prévenir des dangers, pour les prévenir, Seigneur, des chenaux à utiliser, à emprunter, pour ne pas échouer. Eh bien, Seigneur, nous voulons croire que Jésus est la lumière. Il brille sur la terre entière, il brille sur l'humanité entière, et que lorsque nous regardons à lui, Seigneur, eh bien, nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés, parce que nous mettons notre confiance en lui. Augmente notre foi. Donne-nous, Seigneur, un nouveau souffle de foi, et qu'ainsi, Seigneur, nous abandonnions nos soucis, nos tracas, nos inquiétudes, tout ce qui nous perturbe, à regarder de droite et gauche avec inquiétude et avec angoisse, pour regarder véritablement, Seigneur, à celui qui est capable de nous rassurer et de nous apaiser, et de considérer, Seigneur, que la voie qui nous a tracée, c'est une voie un chemin qui devient facile lorsque nous l'utilisons et lorsque nous restons dans la dépendance de celui qui nous appelle à venir à lui. Merci Seigneur, merci Jésus, tu nous bénis cet après-midi. Amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien à travers sa parole, et puis de garder finalement les yeux fixés sur lui. Voilà, merci.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.